Cosette sur le 105.4. Et vous écoutez Radio Panique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième fournée de l'émission Jeunes Radioactifs. Alors pour ceux qui auraient raté notre entrée dans la programmation de Radio Panique, que je remercie au passage, j'en profite pour rappeler que Jeunes Radioactifs, c'est avant tout un projet qui propose aux jeunes qu'ils souhaitent de venir participer à l'émission. Donc avis aux auditeurs, si vous êtes titillés par l'envie de développer une émission radiophonique ou si vous souhaitez simplement venir intervenir sur un sujet qui vous interpelle et qui concerne la jeunesse mais pas que, n'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un petit email à l'adresse jeunesradioactifs@gmail.com. J'en profite pour remercier les associations à l'origine de ce projet, à savoir Info Jeune Aken, Itinéraire AMO, ainsi que la communauté française, rien que ça. Alors, au menu du jour, nous allons cette fois nous intéresser à la question des réseaux sociaux et de l'éducation média. L'objectif ne sera pas de pointer tout ce qui existe en la matière, mais bien nous attarder sur les dangers et les potentialités de ces plateformes, ainsi que sur les ressources et outils qui permettent de prendre du recul face à ces espaces 2.0. Avec moi pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Chantal Massard, directrice du centre InfoJeune Laeken.
Bonsoir.
À ses côtés, Nawel Benaïssa et Yasmine Karatas, toutes deux futures assistantes sociales et stagiaires à InfoJeune Laeken également.
Bonsoir.
Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lapi, chargée de projet multimédia pour l'ASBL Action Ciné Média Jeune.
Bonsoir.
Bonjour à vous. Alors, pour commencer cette émission, cette émission est aussi une occasion de présenter justement un peu toutes ces associations socioculturelles qui existent au sein de la communauté française. Et donc je propose peut-être de commencer par un petit tour de table pour permettre aux éditeurs de se rendre compte des projets et des actions que vous entreprenez. Sophie.
Donc voilà, nous on s'appelle l'Action Ciné-Média Jeune. Alors on est une OGI, une organisation de jeunesse, donc on travaille avec des jeunes de 3 à 30 ou 35 ans, donc c'est assez large, et on travaille partout à Bruxelles et en Wallonie. Alors notre but, c'est d'aller là où il y a des jeunes et de parler de médias, pas commencer à dire c'est mal ou c'est bien, c'est plutôt de voir ensemble les points positifs et négatifs, et puis de justement utiliser les médias pour son usage personnel. Et donc on met en place des ateliers ou des projets avec des jeunes. Les médias, ça peut être la télévision, la publicité, le cinéma, Internet, Facebook, les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens.
Donc ça c'était l'ASBL Action Ciné Média Jeune, et pour InfoJeune Laeken, Chantal.
Oui, alors InfoJeune est un centre d'information jeunesse qui existe depuis plus de 40 ans. Alors nous sommes réputés être des généralistes de l'information jeunesse, ce qui veut dire qu'en première ligne, on est censé pouvoir répondre à toutes les questions que les jeunes se posent. Alors ces questions peuvent avoir trait à l'école, à la formation, à l'emploi, à la vie affective et sexuelle et à d'autres thématiques qui les touchent. Et donc nous avons été interpellés parce que quand même beaucoup, un grand nombre de demandes que nous recevons ont trait au droit scolaire, et est intervenue maintenant une nouvelle problématique, celle d'éventuelles sanctions proposées par l'école lorsque des jeunes utiliseraient de manière abusive Facebook. Et donc on se dit, c'est un chantier à ouvrir, il faut réfléchir sur ces questions, et c'est entre autres le pourquoi de cette émission.
Ben oui, on réfléchira donc à cette question au fil des discussions. Alors peut-être petit bout d'histoire pour commencer, hein. Les réseaux sociaux, on pense souvent que c'est un terme plutôt récent. Eh bien non, en fait, il date quand même déjà de 1954 et a été utilisé pour la première fois par un anthropologue britannique, John A. Barnes. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Mais l'application du concept réseau social tel qu'on le connaît sur Internet, c'est fait bien plus tard, hein, au milieu des années 90 aux États-Unis. Et dans les grandes lignes, hein, il s'agit d'un site web dont le but est de permettre à ses membres de se rencontrer et d'interagir autour de thématiques. Alors il existe bien évidemment différents types de réseaux sociaux. On a par exemple les réseaux dits professionnels comme LinkedIn, Viadeo, qui permettent à ses membres de partager leur CV, de créer des business contacts, on va dire. On a les réseaux de partage comme YouTube et Dailymotion, qui offrent la possibilité de diffuser des vidéos, de les commenter. Et enfin, on a les réseaux sociaux dits généralistes ou grand public, socio-numériques aussi, comme Twitter, MySpace et Facebook. Facebook qui sera justement ben voilà, le réseau sur lequel on va s'attarder au cours de l'émission, puisqu'on peut le dire, c'est vraiment le réseau social qui touche le plus grand nombre de gens à l'heure actuelle. Donc, pour peut-être se faire une petite idée de l'empire Facebook, je propose à Yasmine et Nawel peut-être de nous faire un petit voilà, historique ou de nous proposer quelques petits chiffres.
Pour commencer, pour ceux qui l'ignorent encore, le premier lancement de Facebook a été effectué le 4 février 2004 et son fondateur se prénomme Mark Zuckerberg et qui est à l'époque étudiant à l'université d'Harvard.
Et donc, il a été ouvert au public le 26 septembre 2006 pour les jeunes de minimum 13 ans.
En octobre 2002, nous avons pu constater que Facebook contenait déjà plus de 1 milliard de membres inscrits. Et pour ceux qui l'ignoraient, Facebook, si on le comparait à un pays, ce serait un des pays les plus peuplés du monde.
Donc en fait, les utilisateurs actifs dans le monde par mois sur Facebook est de 1,393 milliard. Et donc sur mobile aussi, 1,189 milliard.
Et le chiffre d'affaires qui a été...
Le chiffre d'affaires de Facebook, donc en 2014, a été de 12,466 milliards de dollars, quand même, oui.
Et Facebook est le réseau social numéro 1 dans le monde. D'après une étude effectuée sur 137 pays, il y en a plus de 130 qui l'utilisent régulièrement.
Donc il y a pour les photos ajoutées tous les jours, il y a quand même 350 millions de photos ajoutées tous les jours sur Facebook.
Et environ une personne sur Facebook a une moyenne de 338 amis.
Ok, belle valse de chiffres, hein. On se rend compte effectivement bah, de l'ampleur du monde Facebook, on peut presque qualifier ça de petit pays, hein, comme vous le disiez. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, on va dire, je propose d'écouter en guise d'illustration un morceau intitulé « L'enterrement d'un iPhone » qui nous est proposé par les Gueules de Wab.
Il redresse la tête,
lui qui ne quittait jamais son écran des yeux.
Son regard semble renaître.
Soudain, il se sent mieux.
Et pourtant, il le regrette.
C'était le plus fidèle de ses amis.
C'est dur à dire, peut-être.
Mais il peut vivre sans lui.
Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie.
Il se sent libre comme le vent, loin de ses amis virtuels. Il pense à ce qu'il aime vraiment et se recentre sur l'essentiel.
Le voilà privé de son GPS. Il est perdu et il en a honte. Il doit maintenant demander son adresse et va enfin faire de vraies rencontres.
Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie.
Il recevait des messages sans cesse avec du langage, texto, des images. Maintenant qu'il n'a plus de SMS, ben, il écrit des lettres de plusieurs pages.
S'informer sur le monde et surfer sur le net, et dire qu'il a toujours trouvé ça normal. À présent il se rend à la bibliothèque, chercher ses réponses sur papier journal.
Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, prié pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie.
sur son mur. Le voilà contraint de sortir des pinceaux, de se remettre à la peinture.
Lui qui écoutait ses chansons sur son téléphone jusque tard le soir. Aujourd'hui, pour assouvir sa passion, il doit ressortir sa guitare.
Ce n'est qu'un simple téléphone, il s'est éteint, priez pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone, il s'est éteint, priez pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie.
Voilà, voilà, ben oui, hein, prier pour ce pauvre petit iPhone disparu. Ben voilà, cette chanson montre un peu hein, aussi cette place importante qu'a pris ces nouvelles technologies et les réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes et des gens de manière générale. Alors, je me retourne vers Sophie. Est-ce qu'on serait devenu des cyber-addicts ?
Mais c'est une bonne question et je pense qu'on n'a pas encore répondu officiellement à la question. Alors, ça dépend comment on l'entend. Est-ce qu'on peut parler d'addiction comme on pourrait parler d'alcool, de drogue ? Il y a toujours un débat. On parle plutôt d'addiction au niveau du comportement. Et donc, nous, dans notre approche d'éducation média, on préfère parler d'usage ou d'excès, d'un usage excessif. Autrement dit, on ne pense pas que le téléphone risque d'être un problème médical ou qu'on ressente un malaise. Par là, on a envie de dire que quand on est sans téléphone, on ne pense pas que Internet. Généralement, on continue à manger, on continue à dormir, on continue à avoir ses amis. Donc finalement, on a quand même un rythme de vie qui est encore soutenu malgré que le téléphone soit là ou quand il n'est pas là, qu'on ne ressente pas un certain manque. Par contre, effectivement, il y a un grand débat au niveau de la norme. Et ça, c'est, je pense, à bien discuter, notamment au niveau de la société et puis au niveau personnel. Beaucoup de jeunes me disent souvent, oui, moi je suis un peu accro, j'ai besoin toujours de vérifier Facebook, de vérifier si j'ai un message. Effectivement, ça, c'est parfois problématique, mais souvent c'est parce qu'il n'y a pas d'autres choses ou des choses plus intéressantes à faire à côté. Alors qu'on attend le bus, quand on est chez soi, qu'on doit faire ses devoirs ou qu'on doit bosser, évidemment c'est plus intéressant d'aller sur Facebook. Mais je ne pense pas que c'est problématique. Alors si jamais des personnes se posent la question si c'est réellement problématique et c'est pas une question de normes, alors nous on se pose souvent trois questions. On se demande déjà, quand on est sur son téléphone ou sur son ordinateur, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est l'objectif de ce qu'on fait ? Alors si on joue à un jeu, en principe, il n'y a pas de souci. On atteint un objectif, on doit combattre des gens. Voilà, il y a un objectif derrière tout ça. Et même si on joue pendant 24 heures, souvent, quand on reçoit un jeu, c'est pas pour ça qu'on est addict. C'est vrai qu'on joue beaucoup, à un certain moment, mais souvent ça passe. Le deuxième point, c'est de savoir si est-ce qu'on joue à plusieurs. Si on joue seul ou avec des personnages virtuels qui n'ont aucune représentation réelle, alors c'est vrai qu'on peut encore se poser des questions. Et enfin, s'il n'y a rien de créatif, alors de nouveau, on peut se poser des questions créatives, c'est dans le sens où on n'envoie pas un message, on n'écrit pas un message, on ne lit pas, on ne partage pas, on ne fait pas des photos. Et donc par rapport à ça, on peut se poser des questions. Mais de manière générale, quand il y a un débat, souvent à la famille ou à l'école, c'est souvent au niveau de la norme.
Et pour peut-être recentrer vraiment la question sur les réseaux sociaux, je me demandais, est-ce que ça a fait un peu évoluer justement les rapports en termes de communication, de relations ? Est-ce que ça a fait évoluer les liens sociaux, par exemple ?
Ça fait évoluer comme le téléphone, comme les mails, comme la poste et le fax ont fait évoluer les relations. Par rapport à ça, tout évolue avec la société. Et notamment avec les médias, étant donné que c'est un canal pour faire passer un message entre deux personnes, ça va évidemment évoluer les relations. Après, il faut aussi se rendre compte que finalement, c'est pas quelque chose de neuf. C'est une nouvelle forme que ça prend, mais finalement, ça ne crée pas des nouvelles relations, des nouveaux besoins. Souvent, c'est quelque chose qui existe et qui se représente à travers cette forme-là. Qu'on est sur Internet et qu'on va sur Facebook, c'est notamment parce qu'on a envie de communiquer, on a envie de parler avec les gens. Si on est sur un jeu vidéo, on a envie de jouer. Si on est sur son téléphone, on a envie de communiquer. Et donc finalement, c'est simplement une autre forme des besoins qu'on a toujours ressenti depuis toujours. Alors je ne dis pas que ça n'a pas complètement changé la conception de la relation. Mais ça, on verra peut-être dans quelques années comment ça évolue. Mais pour le moment, en tout cas, on sait surtout voir qu'il y a une autre forme Il y a d'autres rapports à l'objet, mais il y a pas, on peut pas dire maintenant, avec les nouveaux les réseaux sociaux, ça a complètement changé les jeunes, ils ne voient plus personne. Et d'ailleurs, on a constaté que même si les jeunes étaient beaucoup sur les réseaux sociaux, ils passent encore plus de temps avec leurs amis. Donc l'idée que le virtuel remplace le réel, ce n'est pas encore tout à fait exact.
Et pour les personnes, hein, ces jeunes qui, on peut le dire, ont vraiment grandi voilà, avec un téléphone, un ordinateur à portée de main, ces natifs numériques comme certains les appellent, il y a souvent cette question qui revient quand on fait des petites recherches sur le sujet, c'est cette frontière entre vie privée et vie publique qui commence vraiment à voilà, se réduire, voire être complètement floue. Est-ce que ça c'est un constat que vous avez remarqué?
On travaille énormément cette question-là avec des jeunes. Je peux d'ailleurs demander hein, ici, pour vous, est-ce que vous pourriez définir vie publique, vie privée? C'est compliqué. Et du coup, nous on part d'images ou de situations. Et donc on pose souvent la question, qu'est-ce que vous mettrez sur Facebook? Quand vous êtes avec vos amis, vous allez au bowling, est-ce que vous mettrez cette photo-là sur Internet?
Généralement, oui. On aime bien partager les moments qu'on vit avec nos amis. Donc, ouais. On met d'office une photo pour illustrer ce qu'on a fait ce jour-là, et à quelle heure.
En fait, ça a aussi un peu, immortalisé le moment vécu. Je sais pas, c'est...
Ouais, exactement, ouais. Mais je trouve que c'est un chouette exemple ici. Parce que finalement, ici, on va plus parler de vie privée, vie publique, mais plutôt de ce qu'on va construire sur la toile. Mmh. Et donc, la notion entre qu'est-ce qui est privé... Pour une personne, peut-être se mettre en bikini sur la toile, ce sera complètement public, et une personne, elle sera complètement gênée de se mettre même en t-shirt, parce que c'est personnel. Mais donc, par rapport à ça, c'est plutôt de dire comment je vais construire mon identité numérique. Et je ne sais pas, de votre côté, si vous avez déjà réfléchi à votre photo de profil. Je ne sais pas si vous en avez une en
oui.
tête.
On met des photos normales. Quoi, on mettra jamais, moi, personnellement, je ne mettrai jamais une photo de moi en bikini. Quoi.
Ouais, moi non plus. Moi non plus.
Et pourquoi?
Je trouve que ça relève plus du privé. Enfin, c'est mon corps à moi, entre guillemets. J'ai pas besoin que tous mes amis le voient sur une photo, quoi.
Exactement. Hein. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui doivent être négociées. Par contre, ce qu'il faut travailler, je pense pas que c'est la notion vie privée, vie publique, mais c'est plutôt quand je construis mon identité numérique, comment les autres vont le recevoir. Et ça, c'est parfois un peu délicat. Effectivement, quand on met quelque chose sur Internet, c'est pour tout le monde. Et donc, tout le monde, ça veut dire que la personne qui marche dans la rue verra aussi mon corps avec mon bikini, ou le directeur, ou le prof.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est vrai que nous, on met toujours, on va pas parler de vie privée, vie publique, mais on va dire, tout ce que tu fais sur Internet, c'est que tu peux le faire devant ta grand-mère, ou devant ton directeur, ou devant le Premier ministre. Et du coup, on revoit un peu la donne.
Ouais. Et il y a peut-être aussi la question de, quand on fait certaines choses, même dans l'espace public, bon, ça peut être fugace. On le fait, c'est osé, mais si on le fait sur Facebook, ça vous poursuit. Parce que ça reste, c'est ce que disait tout à l'heure Yasmine, c'est immortalisé. Ça vous poursuit pour toujours. Et donc, il y a parfois des choses qu'on a envie de faire dans l'instant. Et la question, c'est peut-être se dire, je l'assume aujourd'hui, maintenant, est-ce que demain je l'assumerai? Et est-ce que je l'assumerai pour 4 ans, 5 ans? Voilà.
Oui, exactement. Nous, c'est il y a trois règles hein, pour parler d'Internet. On dit souvent, Internet, c'est pour toujours. Et j'expliquerai par la suite les autres notions d'Internet. Mais par rapport à ça, c'est vrai qu'on constate une nouvelle vague d'applications qui, justement, va à l'encontre d'immortaliser les moments. Et notamment Snapchat consiste à supprimer la photo, que la photo s'autodétruit pour justement éviter cette approche d'immortalité.
Merci. Mais je propose d'écouter un extrait d'entretien de Claire Lobet-Marie, sociologue et professeure à l'université de Namur. Alors, pour la mention, c'est un extrait tiré d'un DVD « Les réseaux sociaux, parlons-en » réalisé par l'AMO Oxygène. Et je vous invite vivement, pour ceux qui s'intéressent à la question, de soit prendre contact directement avec eux pour commander ce fameux DVD. DVD qui est également consultable, du moins certains extraits, sur le site télésambre.com.
C'est nouveau pour tout le monde, je veux dire. Et souvent, les jeunes, on oppose les jeunes aux moins jeunes, etc. Dans toutes ces comportements sur le web. Mais je pense que la vérité et la réalité, c'est qu'on est tous aujourd'hui en train d'apprendre des comportements qui soient des comportements, allez, raisonnables, où on ne se met pas en danger, où on ne court pas tout nu sur les réseaux, c'est-à-dire en se livrant complètement au monde entier, à ses amis comme à d'autres, parce qu'au fond, on a toujours appris. Hein. Ça, on a appris, c'est des vieux dictons, que le roi est tout nu n'est jamais très bon pour le roi. Et donc, tout livrer, tout donner, raconter tout de sa vie personnelle comme sur des réseaux peut effectivement entraîner des conséquences qui peuvent être assez dommageables pour la personne, parce que ce que vous confiez peut vous revenir sous la forme d'une histoire qu'on écrit pour vous sur vous, ou d'une réputation qu'on vous fait, d'une image qu'on donne de vous qui n'est pas l'image que vous avez de vous-même, etc. Et donc ça peut rapidement se retourner contre vous. Mais ça vaut pour les adultes comme pour les jeunes. Hein. Et donc je pense que par rapport à tout ça, par rapport à ces difficultés finalement à gérer son image, à gérer son histoire, etc., on va tous devoir apprendre et on va devoir se serrer les coudes. Les jeunes sont sans doute beaucoup plus compétents au niveau technique, et nous on est sans doute beaucoup plus compétents au niveau, se protéger un peu contre les intrusions de l'extérieur, le regard trop important des autres, que ce soit des vendeurs de soupe ou des employeurs futurs ou des administrations, etc.
Dans cet entretien, on comprend qu'autant les jeunes que les adultes ont vraiment des choses à apprendre par rapport à ces réseaux. Hein, c'est vraiment un outil à apprivoiser. Elle évoque l'importance d'avoir un comportement raisonnable sur ce type de plateforme. Et là, je me retourne vers vous toutes. Qu'est-ce qu'un comportement raisonnable ? Qui souhaite peut-être rebondir là-dessus par rapport à ce qui est évoqué ? Oui, Sophie ? Oui,
déjà, je me poserai la question de savoir si on ne parle que des jeunes ou des adultes, parce que finalement, on peut élargir le débat au comportement raisonnable également des adultes, étant donné quand on lit les commentaires des médias d'information principalement, quand c'est un sujet qui est un petit peu sensible, c'est vrai que les commentaires vont un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que moi, je me demande, au niveau des jeunes, est-ce que vous savez définir c'est quoi un comportement raisonnable, ou ne fût-ce que quelques détails ?
Eh bien... C'est par rapport à quoi ? Par rapport au niveau des commentaires, je veux dire.
Dans l'utilisation même, peut-être des réseaux, voilà, quelles sont vos limites, frontières, peut-être justement, à partir du moment où vous dites ça, c'est peut-être plus raisonnable de le partager sur la toile.
Moi, je penserais peut-être à la vie privée, c'est-à-dire peut-être ne pas mettre en avant. Comment dire, certains je sais pas moi, des tabous qu'on fera pas en temps réel et les mettre en public comme ça. Je sais pas si ça poserait aussi des problèmes au niveau, par exemple, des familles, des jeunes qui ne sont pas au courant peut-être de certaines publications et qui pourraient, rien qu'en voyant ça, avoir des problèmes au niveau familial. Je ne sais pas, Noël.
On peut retourner à la question, peut-être que ça va vous aider. Nous, c'est ce qu'on fait souvent en classe ou avec des maisons de jeunes. En fait, on fait souvent des petites animations, des petits ateliers, et puis on leur pose la question de savoir quels seraient les conseils que vous donneriez à des jeunes de votre âge pour bien utiliser Internet, avec vos propres mots. Et quand vous voyez un peu ce que vous faites sur la toile, quels sont les conseils très simples que vous donneriez justement pour peut-être bien utiliser Facebook ou d'autres applications que vous utilisiez ?
Par exemple, vérifier que ce qu'on partage, déjà c'est juste entre amis, enfin que c'est pas public, donc tout le monde n'y a pas accès, que tout le monde peut le prendre et faire ce qu'il a envie avec. Vérifier aussi que de pas accepter tout et n'importe qui sur Facebook juste pour avoir un panel d'amis, avoir un quota genre 500 amis, alors qu'on connaît peut-être 10 personnes sur les 500. Voilà.
Ouais, c'est
plus sur ça quoi, qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a parfois des faux profils qui circulent. Donc ça se trouve, c'est peut-être une fille de 16 ans, mais en vrai, c'est un homme de 35 ans. Enfin, il faut faire attention. Quoi.
C'est marrant. Hein.
Oui, je voulais vous poser une question. Yasmine et à sa copine. Est-ce que, Nawel, est-ce que vous accepteriez un professeur comme ami ?
Non, je ne pense pas. Peut-être pas, peut-être oui, ça dépend.
Peut-être pas durant la scolarité, mais peut-être une fois d'avoir fini la scolarité, pourquoi pas. Enfin, c'est ça.
Ma question avait bien évidemment, j'avais une pensée particulière par rapport à cela, parce que c'est une question qui est arrivée chez nous, donc des jeunes qui avaient accepté des professeurs comme amis, et puis qui, sur leur site, expliquaient qu'ils avaient, enfin sur Facebook plus exactement, expliquaient qu'ils avaient triché lors d'examens. Alors vous pouvez imaginer un petit peu comment cette information a circulé et ces jeunes se sont retrouvés en difficulté face à l'école et sanctionnés par rapport à cela. Donc ça illustre bien le propos de savoir qui est votre ami et qu'est-ce que je peux mettre en évidence par rapport à qui. Voilà. Maintenant, pour les adultes, hein, je pense effectivement qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés, mais on dit régulièrement que le fisc va voir votre Facebook pour savoir si vous avez un niveau de vie invraisemblable, ou encore les employeurs potentiels, parfois, vont consulter le Facebook des jeunes et des moins jeunes. Donc, c'est important de gérer son image et de gérer aussi... les éléments de sa propre vie qu'on laisse à connaître à d'autres individus.
Alors j'ai envie de me poser alors deux questions par rapport à votre réflexion. C'est de se dire, pourquoi j'accepterais mon prof comme ami? Quel est l'objectif? Si c'est parce qu'on a fait un groupe classe Facebook et on discute, pourquoi pas? Si c'est pour avoir un ami en plus, alors je reverrai un peu la question. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 500 amis? Qu'est-ce qu'on en fait, hein, comme Nawal disait? Bah, finalement, peut-être qu'il y en a 10 qu'on connaît. Tous ne servent pas à communiquer, à échanger. Et la deuxième réflexion, j'ai envie de dire aussi que Internet et Facebook fait partie d'Internet, c'est quelque chose de public. Et donc, dans ce cadre-là, tout le monde a accès à l'information. Alors, est-ce qu'on peut tout faire avec cette information? C'est pas le cas. Et effectivement, il y a des lois et des règles qui régissent toutes ces données. Et donc, notamment, on peut voir le cas d'un journaliste qui voudrait aller illustrer un article sur les jeunes. Il ne pourrait pas y chercher une photo sur Facebook. Parce que la personne qui met quelque chose sur Facebook, une information ou une photo, c'est dans le but d'être diffusé sur Facebook, selon un cadre précis. Au niveau de l'école... l'information, est-ce qu'elle aurait dû sortir du réseau social? Étant donné que ça engage l'école et qu'il y a un certain comportement, je ne dis pas qu'il faut punir le jeune, mais en tout cas, il faudrait revoir dès le départ les différents médias et les spécificités. Quand je suis entre amis, est-ce que je commence à dire à mon professeur que j'ai triché? Je ne pense pas. Et donc, étant donné que Facebook, c'est public et que le professeur y a accès, effectivement, il y a quelque chose à revoir. Après, je pense qu'il y a aussi une certaine déontologie qu'il faut pouvoir accepter en tant que professionnel de la jeunesse, c'est de se dire, oui, c'est public, oui, j'ai accès, oui, je pense qu'il faut informer les jeunes que j'ai accès à leurs informations, mais c'est pas pour autant que je vais en faire quelque chose et que je les espionne. Parce que sinon, alors, on tombe dans le discours sécuritaire et de la menace et te dire, ah, j'étais voir sur ton profil, ah, tu as mis ça, ah, mais c'est pas bien, c'est mal. Et donc, finalement, on arrive à un manque de confiance, à une rupture de confiance. Et je pense qu'au niveau du jeune qui grandit, qui est aussi dans une approche d'adolescence ou en tout cas de construction identitaire, ça donne pas forcément un bon message de dire qu'un adulte a été voir sur son compte, même si c'est public. Quel est le message qu'on renvoie à travers cette action?
Oui, je comprends bien hein, l'aspect, voilà, l'adulte a une position sécuritaire, il participe à une vision sécuritaire de la société et ça pose problème. Je partage cette idée-là. Maintenant, parfois, à contrario, il y a des adultes qui vont voir sur les sites, parce que notamment, enfin sur Facebook, parce que notamment certains des élèves leur disent, c'est un autre cas, ben, je suis harcelé, je reçois des injures et je reçois des menaces. Et donc, l'intention n'est pas forcément une intention de flicage ou une intention liberticide, c'est parfois aussi l'intention de protéger un jeune qui est surexposé.
Oui, tout à fait. Bah alors dans ce cas-là, il faut simplement informer les jeunes de la démarche qu'on va entreprendre. Je pense qu'un maximum de transparence pour justement aider le jeune à s'autonomiser par rapport à ça, c'est important aussi. Mais moi, je me demande avec votre idée, est-ce que vous savez bien gérer les paramètres de confidentialité entre ce qui est public et privé?
Ah oui, moi je l'ai mis au maximum. Donc en fait, Facebook propose de, par exemple, regarder son profil d'une manière, genre si on veut m'ajouter moi. Et donc si on regarde bien chez moi, on peut pas prendre mes photos. Enfin, on clique dessus, ça s'ouvre pas. Et on voit juste les photos de couverture. Quand même, photos de couverture, c'est souvent des paysages, des villes qu'on aime bien. Donc il y a pas de risque quoi.
Oui, c'est pareil. Donc moi j'ai mis donc la visibilité que pour les amis et pas public en fait. Donc on a le choix de choisir et je pense que beaucoup de personnes sont au courant de ces confidentialités. Donc,
je pense que la plupart mettent en amis seulement.
Oui.
Enfin, moi, je trouve ça plus sécurisant que mettre ça en public, parce qu'on ne sait pas qui va prendre ça.
Voilà, parce qu'on peut les prendre, on peut les faire, on peut les copier, on peut, voilà, on peut faire tout usage avec.
Justement, moi, j'ai envie de renvoyer cette question. Est-ce que les paramètres de confidentialité suffisent pour protéger ces informations, ce qui circule sur Facebook? Et deuxième petite question qu'on aborde brièvement, c'est est-ce que Facebook, enfin vous l'avez peut-être déjà un peu évoqué, mais des fois on a le sentiment qu'il est au-dessus des lois, par exemple au-dessus des lois belges, en termes de droit à l'image, de confidentialité et de l'usage parfois qu'ils font de ces données qui circulent sur les différents profils, voire sur les GSM, en fonction des applications qui sont aussi liées à Facebook.
Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que quand vous fermez votre porte à clé en partant de chez vous, est-ce que vous êtes sûr que vous n'aurez pas de voleurs chez vous? Est-ce que... Donc ce n'est pas en mettant un maximum de sécurité qu'on a d'office à sécurité, et comme pour chaque lieu, il y a des risques. Après, on peut prendre un maximum de sécurité. Évidemment, quand on part, on ferme la porte à clé. On ne la laisse pas ouverte et dire « venez, venez chez moi ». Non, on essaye, on apprend justement les consignes pour avoir un maximum de sécurité. Donc dans ce cadre-là, je ne pense pas que les paramètres suffisent, et je pense qu'à côté de ça, il faut simplement l'éducation. Hein. C'est comme quand on marche dans la rue, si on te dit tu dois rester sur le trottoir, il faut quand même que quelqu'un t'accompagne pour apprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on dit que vers 10-12 ans, on conseille l'adulte d'accompagner un jeune qui veut apprendre à utiliser Internet. Au niveau des lois, quand tu me dis que Facebook est un peu au-dessus des lois, de nouveau, il y a un peu un flottement. Hein. C'est quelque chose de neuf. Et donc, Facebook, c'est une entreprise qui est basée aux États-Unis. Et donc, ils doivent respecter les lois des États-Unis et pas forcément les lois belges. Mmh. On reste dans un business mondial. Et donc, ce qui se passe, tout ce qui se passe sur le réseau social se passe dans la propriété de Facebook, même si ça se passe en Belgique. Et donc, par rapport à soi, effectivement, il y a des lois en Belgique. Et quand, souvent, il y a vraiment un dérapage et que ça dépasse une loi problématique. Enfin, quand je pense au droit à l'image, il n'est pas du tout respecté, hein, on s'entend. Par contre, si c'est un droit à l'image où il y a des propos racistes, où il y a justement un pas plus loin, alors à ce moment-là, il y a des choses qui sont mises en place au niveau de la justice belge. Mais malheureusement, de nouveau, c'est toujours un conflit, et c'est deux personnes, et ça reste le jeu de la justice de savoir qui va pouvoir prouver quoi, et dans quel domaine, et dans quel lieu. Étant donné que c'est quelque chose de nouveau, je pense qu'on attend un peu de législation. Mais ceci dit, nous, dans le cadre de l'éducation aux médias, on rappelle tout le temps les lois, parce que mine de rien, même si c'est pas toujours respecté, il faut les connaître, et le droit à l'image, le droit d'auteur, la vie privée, vie publique, ou le droit à l'intimité, c'est quelque chose qui vaut parfois la peine d'être rappelé.
On reviendra justement un peu sur ces campagnes que vous menez dans les différentes institutions, hein, pour avoir voilà, un bel aperçu de ce qu'on met derrière aussi l'éducation aux médias. Avant ça, ben, on va de nouveau faire voilà, une petite illustration musicale par une chanson proposée par Denis Lefdup intitulée « Les réseaux sociaux ».
Sociaux. Qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux? On serait un peu perdu comme des oiseaux sans nid. Y a rien de plus beau que l'amitié sur les réseaux sociaux, avec jamais on. Et je vois défiler plein de vie. Je fais le tour de toute la planète, alors que je suis pas sorti du lit. Je ne suis pas sorti du lit. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux? On serait plus petit, on serait moins beau. C'est tout ce qui se dit. Il y en a qui se prennent la tête pour se déplacer chez leurs amis, alors qu'il suffit pour faire la fête d'appuyer sur le bouton de la souris.
sur le bouton de la souris.
T'as pas une connerie à mettre là, à cet endroit-là?
Ah bah non, là moi j'ai plus d'idée. Ah
bah honnêtement, non plus.
Bon bah on enchaîne alors.
Les réseaux sociaux, Denis Lef Dup. Ben, pour reprendre un peu les paroles de la chanson, que ferait-on sur les réseaux sociaux, hein? C'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé des dangers, des dérives que peuvent occasionner ce type de plateforme, mais il est intéressant aussi de pointer, ben, voilà, les avantages, les potentialités de ces réseaux. Ben, voilà, quelles sont-elles? En quoi ces réseaux amènent voilà, des nouveautés, des intérêts, des...
Ben, concernant cela... avec Yasmine, on a fait un micro-trottoir en fait, et donc on a interrogé certains jeunes concernant Facebook. Et ce qui ressortait souvent, c'est que pour eux, Facebook c'était un bon moyen de retrouver des amis qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, aussi de contacter de la famille qui est à l'étranger, par exemple la famille au Canada ou ailleurs. Mmh. Donc c'était plus simple pour eux de discuter que, vu qu'ils ne se voyaient pas. Et donc pour eux, c'était un bon moyen de communication.
C'est vrai qu'avec ça, on peut rajouter beaucoup de choses. Hein. On communique, on échange. Ben voilà, on trouve de l'information. Aussi, ce qui est assez populaire chez les jeunes, c'est on découvre des talents musicaux ou on suit quelqu'un des vidéos de Catlol ou on s'amuse à travers différentes vidéos. Et c'est vrai que de passer d'une vidéo à l'autre, bon, on voit parfois des choses drôles et puis parfois des choses intéressantes. Et donc, je pense par rapport à ça, il y a vraiment un intérêt de s'ouvrir au monde finalement et découvrir énormément de choses.
Ouais.
Je pense en termes de liberté d'expression aussi, c'est vrai que c'est quand même un nouvel espace souvent démocratique, on peut le dire, même si bon, il y a peut-être des petites manettes qu'on ne maîtrise pas. Et ça s'est peut-être senti hein, au travers même des phénomènes qu'on a connus il n'y a pas si longtemps que ça, hein, genre les révolutions arabes, etc., qui ont quand même voilà, pris naissance, ou en tout cas été aidées par ces plateformes qui permettaient voilà, à ces militants d'échanger, de se retrouver. Donc est-ce que ça peut être vu comme un nouvel espace démocratique qu'on n'a peut-être pas justement dans les autres sphères, peut-être réelles? Est-ce que le virtuel est un nouvel espace
démocratique? J'aurais envie de dire que oui. Malheureusement, c'est vrai qu'on constate qu'il y a quand même parfois un décalage entre les connaissances. Bon, on parlait de fracture numérique où on disait qu'on n'avait pas toujours accès à l'objet. Actuellement, en Belgique, les jeunes ont généralement accès à Internet. Et par contre, il y a un décalage entre la connaissance. Et quand je vais sur Internet, qu'est-ce que je fais? Comment j'utilise Facebook et quel est mon intérêt? Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est démocratique, mais c'est vrai que bah, y a un travail d'éducation et en tout cas d'information, de savoir comment on l'utilise. Mais en tout cas, on peut constater que ça a bien été pris par les jeunes et ne fût-ce que tous les réseaux sociaux, mais également les applications sont utilisées vraiment pour discuter et échanger des vrais propos.
Mmh. Et pour un peu aussi relayer certaines informations, à qui par exemple ces parents ou enfants qui se posent des questions par rapport à ces réseaux, à ce qu'ils peuvent en faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, leurs droits aussi par rapport à ça, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un petit échantillon de, voilà, de structures, de personnes qui seraient intéressantes comme relais?
Pour voir ce qu'on peut faire et pas faire sur Internet.
Voilà, pour en tout cas les personnes qui seraient curieuses d'en savoir plus, justement, c'est vrai que ça sera difficile d'aborder tous les points par rapport à ces réseaux, mais s'ils souhaitent s'informer sur leur...
Le premier réflexe, hein, c'est déjà de parler avec les jeunes, de poser la question, regardez, hein, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone, c'est quoi cette application? Parfois on a l'air un peu bête, mais en même temps, c'est vrai qu'on apprend des choses, et eux sont aussi contents de pouvoir parler, discuter, de dire, bah voilà, moi je fais ça, voilà, je discute bêtement avec un ami, ou enfin, simplement. Et donc c'est vrai que le premier réflexe, c'est d'en discuter. Après, c'est toujours aussi agréable d'aller voir soit les adultes, le réseau d'adultes, que ce soit les profs, les directeurs, l'école, ou encore les centres de jeunes, les maisons de jeunes. Je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions. Et donc, étant donné que c'est au cas par cas, parfois ça vaut la peine justement d'aller au sein du réseau du jeune pour justement discuter, voir ce qui est possible. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que nous on a une approche à rendre le jeune critique et autonome, et donc on est rarement à lui interdire quelque chose et dire ça c'était droit, ça c'était devoir, mais on est plutôt à dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses de ton usage. On essaye de prendre un peu de recul et de se dire voilà, est-ce que tu trouves de l'intérêt à faire ça, qu'est-ce que ça t'apporte. Si ça t'apporte du positif, bah super. Si ça t'apporte un peu un mal-être ou que tu te sens pas tout à fait à l'aise, qu'est-ce que tu pourrais changer. Et donc on pousse le jeune à pousser à réfléchir. Et puis par rapport à cette approche là, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal d'associations qui font de l'éducation aux médias. Je pense à de l'éducation permanente comme Média Animation, le CAV, le CAF. En tout cas, il y a des ressources qui se trouvent notamment sur le CESEM, qui est le Conseil supérieur de l'éducation aux médias, et donc qui est là pour renseigner les jeunes, les gens, les adultes à propos des médias.
Très bien. Pour compléter un peu cette liste, hein, on peut aussi parler en termes plus de droits aussi, de protection. Il y a la commission de la protection de la vie privée qui peut voilà, intervenir justement pour certaines situations où on a besoin de personnes ressources, hein, pour savoir vraiment ce qu'il en est par rapport aux droits. Commission qui a mis en place justement un chouette site qui s'adresse autant aux enfants qu'aux parents qu'aux enseignants, qui est www.jedecide.be. Et bien sûr, la communauté française s'est aussi emparée de cette thématique problématique, intérêt en tout cas. Ils ont développé un chouette document appelé « Internet et les jeunes, guide à l'usage des enseignants du premier degré ». Enfin, on a aussi le délégué général aux droits des enfants, qui bien sûr peuvent répondre à différentes questions sur ce sujet. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition en vous proposant justement le prochain entretien, qui est David Lallemand, qui du coup est lui chargé de la communication et des projets auprès du délégué général aux droits des enfants.
Ce qui me semble clair, c'est que tout le monde n'est pas égal aujourd'hui face à l'utilisation des techniques modernes de communication et d'information. Et tout le monde n'est donc pas non plus égal face à la possibilité de travailler intelligemment, les potentialités et des réseaux sociaux et finalement du virtuel en général, parce que tout le monde n'est pas éduqué de la même manière à le faire. Alors il faudrait que l'école le fasse mieux, qu'elle intègre beaucoup mieux et plus cette dimension-là dans son cursus actuel et qu'elle l'intègre de telle manière à justement que les enfants ne le découvrent pas comme si les outils virtuels qu'ils ont dans leur poche ou bien chez eux devenaient subitement des outils du Moyen-Âge, de la manière dont on leur en parle ou de la manière dont on leur explique. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait finalement une adéquation face à cet accès immédiat qu'ont ces jeunes à ces outils de communication et d'information et la possibilité de, finalement pour le prof ou bien pour le formateur, de se mettre à leur niveau et d'utiliser leurs compétences dans leur utilisation au quotidien pour extrapoler sur le rôle de l'adulte à ce moment-là, qui serait de travailler les potentialités qui ne sont pas encore identifiées par les jeunes de ces outils qu'ils ont dans leur poche, travailler les questions pédagogiques, voire de manière transversale, travailler les matières que l'école et les socles de compétences que l'école est censée fournir aux jeunes au travers de ces outils que les élèves ont dans leur poche et dont ils disposent au quotidien. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment l'idéal. On en est loin aujourd'hui. Alors il y en a qui le font, mais généralement ce type d'approche demande des moyens, un projet d'école particulier, une perméabilité de la direction à ce genre de réflexion, et on le sait, c'est très clairement pas le cas partout. Et puis il y a des écoles qui cumulent les obstacles, les faiblesses, où le corps enseignant est sans doute extrêmement compétent, mais n'a pas le temps, on ne peut pas se placer dans ce genre de logique, parce que simplement il faut parer au plus pressé au quotidien, et que le plus pressé, c'est déjà beaucoup de choses à faire, et que ça encombre malheureusement les relations qui pourraient être beaucoup plus détendues justement avec le public des élèves et les ponts qu'on pourrait jeter entre les uns et les autres, puisqu'ils seraient basés sur des outils qui sont maîtrisés par les jeunes justement. Donc je pense que là il y a un grand rôle de l'école à faire. Ce qui manque, c'est ça. Et puis aussi de reconnaître la crédibilité de ces outils modernes au niveau politique, au niveau des décideurs, pour montrer... Les seuls qui l'ont fait jusqu'à présent, c'est les entreprises et les gens qui ont quelque chose à vendre, hein, parce qu'eux, ils ont très bien compris, et ils investissent massivement, justement, dans ces plateformes et dans ces réseaux, parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à faire. Et malheureusement, ceux qui sont le plus perméables aux messages publicitaires, etc., on sait de nouveau que ce sont des publics qui, en soi, sont moins éduqués dans des... populations plus fragiles, plus précaires et qui sont du coup aussi mises plus vite en péril et en danger par le fait qu'elles pourraient faire des achats qui seraient qui découleraient justement de leur perméabilité aux messages publicitaires qu'on trouve sur ces réseaux quoi.
Donc on entend bien, hein, voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à l'utilisation hein, qu'on a des réseaux sociaux, hein, même si la fracture numérique justement a évolué, mais du coup maintenant c'est la pratique qui demande un certain travail, et du coup je me pose cette question, hein, il évoque l'école, comment l'école vit-elle voilà, cette relation avec les réseaux sociaux
Mais c'est encore une question qui est en chantier. L'école se demande comment réguler et quand doit-elle réguler des questions qui se posent à travers Facebook. Mais alors pour l'anecdote, on a évoqué jusqu'ici, en parlant de l'école, les jeunes qui, à un moment donné, auraient tenu des propos inopportuns sur la toile. Mais on peut épingler aussi des attitudes d'adultes qui ne sont pas extrêmement futées. Je pense à des professeurs qui ont eu des soucis, parce que sur Facebook, ils avaient indiqué qu'ils n'avaient pas corrigé eux-mêmes leur copie d'examen. Ou plus ennuyeux, à mon sens, des professeurs qui ont épinglé des morceaux d'examen de leurs élèves et qui ont tenu des propos assez peu agréables à l'égard de ces élèves. C'est tout sauf pédagogique, évidemment. Ça, c'est totalement inopportun, mais ça montre que il n'y a pas que les jeunes qui doivent apprendre à utiliser correctement Facebook. Alors, ceci étant dit, on voit de plus en plus un certain nombre d'écoles qui essayent de se doter dans leur règlement d'ordre intérieur d'articles qui ont trait à l'usage de Facebook. Et je pense que là où ça se fait de la manière la plus adéquate, c'est lorsque l'école décide de mener un atelier avec les jeunes sur l'utilisation de Facebook, discute avec eux de cet usage et intègre un article dans le règlement d'ordre intérieur qui est directement en rapport avec le travail qu'ils ont réalisé avec les jeunes. C'est vraisemblablement dans ces hypothèses-là que le travail est le plus porteur et que les jeunes comprennent le mieux pourquoi respecter certaines règles.
De campagne, là je regarde Sophie, vous en avez mené toute une série hein, justement auprès des écoles. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur voilà, la façon dont c'est mis en place, ce que vous proposez ?
Ouais, c'est vrai que nous on travaille essentiellement dans les écoles, bon, on travaille partout, mais essentiellement dans les écoles, on travaille déjà dès la troisième primaire. Donc c'est des enfants de 8 ans, c'est assez jeune, ils sont peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais en tout cas on amorce déjà le dialogue et la discussion. Et donc après on travaille jusque notamment les élèves de l'école supérieure ou encore avec les profs pour parler justement des usages des jeunes. Et donc par rapport à ça, on installe vraiment un dialogue et au lieu d'interdire, parce qu'on sait que quand on interdit, le but c'est d'aller outre l'interdiction, on construit quelque chose ensemble. Et c'est vrai que cette démarche de dire on va construire ensemble le règlement, je pense que c'est vraiment une démarche intéressante qui permet non seulement d'autonomiser, de rendre le jeune critique, et puis finalement d'aller vers un savoir-vivre ensemble plus agréable que d'être toujours derrière une personne. Après, je ne dis pas que c'est pas parce qu'il y a le règlement que c'est d'office respecté, mais je pense que dès que l'information est déjà claire, c'est déjà beaucoup plus facile à appréhender. Et donc dans ce cadre-là, nous on fait des animations dans les écoles. Alors on fait à la demande, hein, donc ça peut aller dans tous les sens. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de focus sur le cyberharcèlement. Donc c'est une approche qui est un peu délicate parce qu'effectivement, nous on constate qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement, mais dans l'idée d'un harcèlement. Autrement dit, il y a rarement un problème sur Internet quand il n'y a pas de problème ailleurs. Et donc, dans cette approche-là, on travaille essentiellement avec le groupe classe, pas pour résoudre le problème, mais en tout cas pour se rendre compte de ce qui se passe. Et donc, c'est vrai qu'on explique c'est quoi l'harcèlement. Ben, ça doit être répété, il faut avoir une victime, un harceleur et un public, ça c'est très important. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une volonté de nuire. Et donc, nous, dans cette approche-là, on va toujours travailler principalement du point de vue de l'autre. Parce qu'on a toujours tendance, oui, c'est pas moi, c'est l'autre. Oui, c'est une blague, c'est pas grave, c'est juste pour rire. Effectivement, c'est juste pour rire, mais sauf que quand c'est moi à la place de l'autre, ça fait pas toujours rire. Et donc, on va travailler dans les écoles à la place de l'autre, et notamment à la place d'un internaute qui apparaît comme passif, mais qui est tout à fait actif par le partage, par le fait de voir quelque chose, par simplement le fait de relayer une information, et par rapport à une information qu'il voit simplement et qu'il en parle par la suite avec ses amis. Mmh. Et donc ça va vraiment des animations ludiques, hein, où on commence à avoir une image, c'est-à-dire est-ce que je la mettrai sur Internet ou je la mettrai pas sur Internet, comme des animations où on réfléchit à savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec Internet, avec les sites collaboratifs, le crowdfunding, le crowdsourcing, comment aller plus loin avec Internet et quel est le bon usage que je pourrais en faire avec ma situation.
Mais comme on approche hein, doucement, je veux dire, de la conclusion, je propose peut-être de faire un petit tour de table pour reprendre un peu les éléments que vous aimeriez souligner avant qu'on se quitte.
Oui. En fait, comme on a parlé du cyberharcèlement, moi je trouve que c'est un fait qui est quand même grave, qui peut pousser certains jeunes, donc même au suicide. Donc il y a eu différents cas comme ça. Et en fait, j'ai été checker un peu sur le site de Child Focus, et notamment la question était comment réagir face au cyberharcèlement. Donc en fait, ce qui nous propose, c'est de sensibiliser les jeunes, donc au niveau de la classe ou des groupes de jeunes, donc à être des acteurs citoyens en ligne, donc discuter avec eux et surtout le pourquoi de ces actions, les aider à comprendre les répercussions aussi du harcèlement sur les victimes comme le suicide, et donc expliquer les comportements punissables d'un point de vue légal aussi. Et donc par exemple, ce qui peut être sanctionné par la loi, c'est envoyer des emails ou des SMS de haine, se faire passer pour quelqu'un d'autre, envoyer des photos de quelqu'un sans son autorisation, donc pirater un compte, utiliser des propos racistes, etc. Donc il faut savoir que tout ça est punissable par la loi, et donc ça a des conséquences sur les auteurs et donc sur les parents aussi quand ils sont en âge mineur, quoi.
Ouais, je vais juste compléter. Ouais. Effectivement, quand il y a un suicide, c'est très grave, et je pense qu'il faut vraiment mettre quelque chose en place. Oui. Mais après, ce qu'on voit dans la classe, c'est beaucoup de moqueries et beaucoup de blagues, et des blagues qu'on ne pense pas que c'est grave. Et je pense qu'il ne faut pas attendre jusqu'au suicide pour faire quelque chose. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau aussi des moqueries et simplement des plaisanteries. Si tout le monde fait un lol ou une moquerie, c'est vrai que les 50 commentaires ne feront pas plaisir. Et ce n'est pas parce que c'est par Internet que ce n'est pas réel. Ça fait vraiment mal à la personne.
C'est ça, en fait, oui. Tout à
fait. Noël, est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais pointer?
Concernant Facebook, je dirais de toujours faire attention à ce qu'on partage, en fait. Vérifier comment et à qui, en fait. Et se protéger le plus possible, en fait. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi. Enfin, de. Aller. De se faire pirater une photo ou d'être comme dit Yasmine, prendre une photo de quelqu'un et la donner à gauche et à droite sans qu'on le sache, et puis on la voit apparaître un jour et on se dit ah ouais, quand même. Donc faire attention à ce qu'on donne, quoi.
Chantal, un petit mot?
Oui, peut-être. L'émission met en évidence le fait que l'éducation aux médias, c'est quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Et je pense que c'est d'autant plus important en milieu populaire. Et donc, Sophie l'a souligné au départ, David Lallemand également, on n'est pas tous égaux face aux médias, il faut apprendre à les utiliser, et il est vraiment fondamental. On sait qu'à l'école, il y a beaucoup d'inégalités dans les écoles et dans les compétences acquises par chacun. Il faut réduire ces inégalités, et il faut également les réduire lorsqu'il s'agit d'éducation aux médias.
Je pense qu'on a fait le tout. Je ne sais pas si Sophie...
Oui. Je peux terminer par simplement 3 petits conseils sur Internet. On sait qu'Internet, c'est pour toujours, effectivement. Donc, je réfléchis à 2 fois avant de poser quelque chose. C'est pour tout le monde. Donc, c'est public. Ça reste un espace public. Et enfin, c'est incontrôlable. Effectivement, quand je mets une photo sur Internet, je ne sais jamais comment ça va circuler. Parfois, ça se retrouve sur Google. Parfois, ça se retrouve sur un autre site. Et surtout, on peut aussi en profiter. Je pense que si on connaît les usages, c'est comme la télé, c'est comme la radio. Ça a eu son temps où tout le monde l'a redouté, maintenant tout le monde l'a apprécié. Et je pense qu'Internet, quand on apprend à l'utiliser, ben, on peut faire des choses vraiment très intéressantes.
Tout à fait. Hein, c'est, voilà, à ne pas diaboliser, et c'était absolument pas le but de cette émission. Hein, c'est simplement voilà, de faire un petit tour, justement, des questions toujours à se poser, peut-être, dans son usage, mais aussi voilà, des pistes de réflexion sur les intérêts, les perspectives que peuvent offrir aussi ce type de réseau. Alors, avant de conclure, ben, je tiens encore une fois à remercier Action Ciné Média Jeune et Sophie Lapi, merci pour voilà, de vous être déplacé. Merci à InfoJeune Laken.
Rien.
Merci à la communauté française et merci à Radio Panique et Arthur, voilà, qui est aux manettes derrière, devant moi. Enfin, je le vois derrière cette vitrine. Alors, je vous propose ben, voilà, une petite conclusion ben, musicale encore. Hein. J'aime finir avec, avec douceur et légèreté. Et là, on va écouter Damon Albarn, qui était également connu pour être le chanteur de Blur et de Gorillaz, et son morceau est intitulé Everyday Robots.
They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it?
Little robots in rhythmic tones.
Radio Panique rassure l'auditeur.